les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone, deuxième étape, deuxième épisode de cette nouvelle saison, avec un voyage en Turquie, en Afghanistan et quelque part dans le monde de l'enfance. Cap sur la Turquie donc cette semaine, avec le roman de Valérie Manteau en cette rentrée littéraire. Son éditeur, le Tripode, a choisi de publier un seul livre, le sien. Un livre intense sur les conséquences des intégristes qui s'attaquent à la presse et aux écrivains ou aux artistes. Nous vous présenterons une BD qui crée l'événement en librairie en ce moment, le prix Goncourt Mathias Sénard. S'associe à la dessinatrice et auteure libanaise Zeina Abirached pour un gros livre sur la notion du refuge. Bonjour Mathias Sénard.
Bonjour.
Comment allez-vous Mathias?
Ben, c'est bien ma foi.
Oui, vous avez eu le prix Goncourt en 2015 pour Boussole. Une fois qu'on a eu le Goncourt, la rentrée littéraire, ça glisse tout seul? On n'a plus de pression?
Non, enfin en tout cas c'est tout à fait différent de sortir une bande dessinée quand on est un auteur de roman d'habitude.
Ouais, déjà, ouais.
On rencontre des gens dans un autre monde et puis on n'a pas du tout cette histoire de liste de prix, tout ça c'est très différent effectivement.
Ouais. Bonjour Zeina Abirached.
Bonjour.
Soyez la bienvenue.
Merci.
On parlera de ce livre incroyable, c'est vraiment l'un des événements et c'est magnifiquement dessiné, vous êtes une grande dessinatrice.
Merci.
Bienvenue dans la librairie francophone.
Merci.
Et puis il sera question de l'enfance avec Marie Desplechin qui publie avec Claude Ponty un livre étonnant qui met en valeur des enfants célèbres ou anonymes qui ont contribué à changer le monde.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bien sûr, les libraires sont avec nous. Certains étaient déjà là, la semaine dernière, avec nous à Morges. D'autres reviennent, comme Thomas Auxerre. Bonjour Thomas.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Puteaux, dans la librairie Lamandier, juste à côté de Paris.
Exactement.
Dans le quartier de la Défense, pas très loin.
C'est ça, c'est pas loin.
Vous représentez la France.
Eh oui,
l'été s'est bien passé?
Super, très belles vacances, je suis très content d'être ici.
Ah, vous avez pris des vacances?
Ah ben un petit peu.
Ouais, c'est bien. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne. Tout va bien pour vous, je le sais, puisqu'on a parlé avec vous à Morges. Vous êtes très en forme en
Exactement.
Ce moment.
Exactement. Dominique... Je n'étais pas en vacances, moi.
Non, moi non plus. Dominique Bressou, elle représente la Suisse. Elle est libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Bonjour Dominique.
Bonjour Emmanuel.
Remise de Morges, vous étiez là aussi.
Oui, ça, tout va bien.
On a une grosse surprise suisse avec un petit reportage tout à l'heure. Restez à l'écoute. Ah. Dominique, ça va vous plaire. Et au Canada, c'est Josiane Letourneau de la librairie du Square qui est avec nous, installée à Montréal, dans le quartier Outremont. Bonjour Josiane.
Bonjour.
Comment se passe la rentrée au Québec?
Ça va bien. En fait, ça commence.
Ça commence. Doucement, ouais. Mais tranquillement.
On a le temps d'apprécier la rentrée.
Bien. Merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Marie Desplechin.
Bonjour.
Nous parlerons donc de ce très beau livre que vous venez de publier sur le thème de l'enfance. Un livre pour petits et grands d'ailleurs. Mais on commence cette émission par une anecdote personnelle sur un thème qu'on vous a imposé, Marie. L'enfance. Quelle histoire voulez-vous raconter?
J'ai pensé à raconter une histoire qui pourrait rassurer les parents qui sont angoissés par la rentrée et leurs malheureux enfants en les amenant à relativiser. Qui concerne la maîtresse que j'ai eue en CE2 en arrivant à l'école publique après l'école privée, qui s'appelait Madame de Brabandère. J'avais 8 ou 9 ans et c'était une dame extrêmement méchante. Et elle nous hurlait dessus à longueur d'année au point que sa voisine, Mademoiselle Dieu, que j'ai eu en CM1 l'année suivante, arrivait souvent dans notre classe, entrouvrait la porte et disait « Vos cachets, Madame de Brabandère, vos cachets ». Je me souviens de la leçon sur les agrumes pour lesquels elle faisait venir une petite fille sur l'estrade, puisque à l'époque les écoles n'étaient pas mixtes, et voulait prouver qu'il y avait dans le zeste d'agrumes une essence qui irritait les yeux, une essence irritante. Et donc la petite fille sur l'estrade, la maîtresse s'approchait d'elle et elle lui ouvrait l'œil, la paupière largement avec ses deux doigts.
Avec un citron.
Elle prenait une écorce de citron et pchit. Donc la petite fille, évidemment, était une espèce de sursaut, et voilà.
Oui.
Et la preuve était faite, c'était vraiment une leçon sur la science, c'était même...
Oui. Et ça va rassurer les enfants pour vous?
Eh bien, aujourd'hui, quoi qu'il se passe dans la classe de votre enfant, messieurs, mesdames, ce ne sera jamais pire que ce que j'ai vécu avec Madame de Brabandère.
Marie Desplechin est dans la librairie francophone cette semaine. Et Et bonjour Valérie Manteau.
Bonjour.
On part en Turquie avec vous. Là encore de petites surprises turques arrivent pour vous tout à l'heure. Mmh. Vous êtes très jeune, 33 ans. Vous avez travaillé pour Charlie Hebdo entre 2008 et 2013. Mmh. Et votre éditeur a choisi de ne publier qu'un seul livre en cette rentrée littéraire. Un choix risqué, très rare dans le monde de l'édition. Je rappelle qu'il y a 560 romans qui paraissent en France en ce moment même. Et le Tripod, éditeur d'Aliz Amir notamment, a misé sur vous. Vous êtes là. Pourquoi avez-vous choisi la Turquie comme décor à votre histoire?
J'ai choisi la Turquie pour des raisons personnelles. D'abord, c'était pas d'abord comme décor à mon histoire, c'était pour y vivre. Mmh. Pour de plus en plus longues périodes à Istanbul à partir de 2015, après les attentats. Et en y vivant, en y restant, en découvrant un peu l'histoire de la Turquie et ce qui s'y est passé pendant le temps que moi, j'ai passé là-bas, j'ai eu envie d'écrire dessus.
Donc c'est un décor réel, c'est votre histoire?
Ouais. Ça ressemble.
Ça ressemble. Vous êtes parti après les attentats, pourquoi? Il fallait aller ailleurs, vraiment.
Oui.
Alors du coup, vous n'êtes pas apaisé là-bas. On va raconter un peu cette histoire parce que votre personnage part rejoindre son amant et une amie qu'elle a connue. Elle sillonne Istanbul, notamment avec la place Taksim, lieu des révoltes de 2013, la rive asiatique de l'autre côté du Bosphore, la rue Istiklal, très animée jour et nuit. Il y a un paradoxe à Istanbul. Un vent de liberté, comme ça, contrarié par une politique répressive que l'on veut rendre invisible, mais qui est bien présente.
Oui, une ville très paradoxale, c'est une ville qui est très très agréable à vivre. Moi, j'adore Istanbul, vraiment. Enfin, j'y suis allée, ça paraît complètement absurde, vu d'aujourd'hui, de dire que j'ai voulu aller trouver du calme et prendre du recul en Turquie. Mais c'était vraiment ça, mon idée. Ça s'est beaucoup empiré ces deux dernières années, mais c'est une ville qui a une certaine violence, qui va pas très bien. C'est
un pays
qui va
pas culture, très bien. Énormément
une
de choses.
Une culture merveilleuse.
Ça bouge énormément. Ouais. Mm-hmm. Je vous propose d'aller marcher quelques instants dans la rue Istiklal. Vous avez marché dans cette rue. En partant de la place Taksim, on y est allé. C'était un soir, il y a 3 ans. Nous, c'était il y a 3 ans. Nous étions allés faire un grand reportage là-bas pour une autre émission avec mon collaborateur Jean-Philippe Véret. Voici l'ambiance. Exactement, on y est avec l'ambiance. Il n'y a pas de montage, il n'y a rien. L'ambiance de la rue Istiklal. Ici, dans la rue Istiklal, l'une des rues les plus fréquentées d'Istanbul, rue exclusivement piétonne, où l'on peut retrouver d'ailleurs différents musiciens, des échoppes, tout type de magasins, et évidemment toute la population stambouliote qui déambule à partir de 18h jusque tard dans la soirée dans cette rue particulièrement animée. Dans cette rue Istiklal, il y a un tramway qui circule de la place Taksim, l'une des places principales d'Istanbul, jusqu'à la tour de Galata et qui nous permet comme ça de circuler sur 3 km avec des enfants qui viennent, qui s'accrochent au tramway avec parfois des méthodes assez dangereuses, mais qui sont comme ça dans une ambiance de jeu, même si parfois ils se font écarter par les responsables du tramway. Souvenir de la rue Istiklal.
La rue Istiklal.
Vous semblez émue, Valérie Manteau.
Un peu, et en même temps, quand je pense à la rue Istiklal, je pense que c'est un des endroits les plus symptomatiques du changement qu'il y a en Turquie ces dernières années, c'est-à-dire vous ne la reconnaîtriez peut-être pas si vous y êtes allé il y a 3 ans, et c'est encore pire pour les gens qui l'ont connue il y a 10 ans. C'est une rue qui a complètement changé au gré des changements d'Istanbul. Au bout de la rue d'Istiklal, c'est la place Taksim où avait lieu l'occupation de la place Taksim et du parc Gezi en 2013. C'était un lieu de rassemblement d'intellectuels et d'une certaine frange progressiste d'Istanbul qui a complètement déménagé, je pense maintenant, du quartier.
Ouais.
Vraiment.
Oui, tout a changé là-bas.
Qui est parti d'ailleurs sur la rive asiatique, là où moi j'habitais.
C'est ça. Où il se passe beaucoup plus de choses aujourd'hui.
Je pense.
Ouais. Il y a un décalage comme ça des populations, de la culture des artistes qui vont plutôt vers la rive asiatique. On va y revenir. Valérie Manteau, dans votre roman Le Sillon, votre narratrice découvre l'histoire de Hrant Dink, journaliste et écrivain turc d'origine arménienne, assassiné par un nationaliste de 17 ans. C'était à Istanbul le 19 janvier 2007. Et vous remontez le fil de son histoire.
Oui, j'ai découvert son histoire quasiment par hasard en lisant un livre d'une sociologue et écrivaine turque qui s'appelle Pinar Selek, Le livre s'appelle « Parce qu'ils sont arméniens », c'est sorti en 2015 pour le centenaire du génocide. Et elle racontait l'histoire de cet intellectuel, journaliste, une personnalité extrêmement charismatique et romanesque, qui a été assassiné. Et après son assassinat, ça a déclenché une prise de conscience très forte en Turquie, de grandes manifestations dans Istanbul, au cri de « Nous sommes tous arméniens », ce qui est à peu près sans précédent et sans suivant dans l'histoire de la Turquie. Et j'ai eu envie de m'intéresser à cette histoire et de voir ce qu'il en restait.
Grand promoteur de la paix, ouais. Il va créer le premier journal bilingue turco-arménien. Et alors, en remontant cette histoire, vous apercevez que des journalistes se font assassiner en Turquie aussi, et surtout parce qu'il y a beaucoup de journalistes emprisonnés ou assassinés là-bas. Et alors, du coup, c'est vrai que quand on lit votre livre et qu'on connaît votre parcours, qu'on sait que vous avez travaillé à Charlie Hebdo, vous êtes parti juste après, mais vous vous retrouvez à faire une enquête et à découvrir des horreurs absolues. Et votre amant, enfin je sais pas si c'est votre amant, mais en tout cas l'amant de la narratrice, lui dit « j'en peux plus, arrête, parce que tu t'enfonces et tu m'enfonces en même temps ».
C'est pas la même chose, c'est pas la même violence de travailler sur une histoire qui est la sienne et une histoire qui est pas la sienne. Moi je suis pas arménienne et je suis pas turque, et ça m'a pas fait la même chose, ça m'a permis de prendre du recul et de comprendre plein de choses, de m'intéresser à cette histoire-là qui n'est pas la mienne. J'aurais pas voulu écrire un livre sur Charlie. D'accord. Et je comprends que les Turcs n'avaient pas forcément envie que je vienne tous les soirs leur reparler de cette histoire qui leur fait mal à eux.
Oui. Il y a 3 libraires qui ont lu votre roman, Valérie Manteau, la Suisse, la France et le Canada. On commence par qui, Valérie ?
Le Canada.
Le Canada, allons-y. Josiane Letourneau.
C'est un roman très beau et peu orthodoxe que le vôtre, Valérie Manteau. J'avais par moments davantage l'impression de lire un essai qu'un roman, mais sans en souffrir, bien au contraire. Merci pour la découverte de Rand Dink que je ne connaissais pas et pour ce questionnement autour de notre œil et de notre esprit occidental qui est extrêmement pertinent. Et ce livre m'a vraiment énormément fait réfléchir. J'ai pris beaucoup de notes, c'est un foisonnement. M'a fait croiser des femmes que j'aime et j'admire comme Asli Erdogan et Elif Shafak. Et m'a clairement ouvert un chemin de lecture future. Et ça, c'est toujours un bon signe en ce qui me concerne.
La Merci. Suisse avec Dominique Bressoux, êtes-vous d'accord?
Ah oui, complètement. Moi, j'ai trouvé que c'était un très beau livre, mais alors assez touffu, surtout que j'avoue une ignorance quasi totale de l'histoire de la Turquie, et je me suis souvent sentie un peu perdue. Mais en fait, Valérie Manteau ouvre avec ce roman une porte qu'on a envie de pousser pour découvrir un autre monde, une autre façon de penser, et de réfléchir sur des pensées en fait d'une grande sagacité sur le vivre ensemble.
Thomas Auxerre pour la France.
Alors je suis d'accord aussi, j'ai été un petit peu étonné au début par la forme de ce texte, composé de petits instantanés. Après j'ai plongé, clairement. J'ai trouvé votre écriture vraiment puissante, vos propos très riches, et puis à plusieurs reprises, j'ai eu envie de vous relire, ce qui m'arrive très rarement. Vous ferez vraiment partie de nos coups de cœur à la Libari.
Merci infiniment.
Voilà, vous faites l'unanimité, Valérie Manteau. En Turquie, avec toutes ces histoires politiques que vous racontez, vous collaborez aussi avec un dessinateur turc qui travaille pour un journal qui avait republié les dessins de Charlie après l'attentat et qui vous demande comme ça de porter un regard sur la vie quotidienne à Istanbul, et lui se chargera de la dessiner, enfin de dessiner ses regards. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu, c'est un peu plus compliqué.
Oui, alors c'est pas tout à fait vrai. Enfin, c'est ça fait partie de l'intrigue romanesque. Ouais, ouais. Il se trouve que j'ai effectivement fréquenté des dessinateurs là-bas parce que moi j'aime les dessinateurs et que la Turquie est un pays avec une presse satirique très intéressante et très riche, très exposée aujourd'hui. Donc ça m'intéressait de parler de ces dessinateurs et du fait de cette tradition qui existe là-bas aussi. Qui a republié, effectivement, il y a plusieurs journaux qui ont republié les dessins de Charlie.
Et qui sont attaqués aujourd'hui, d'ailleurs, encore
dans
aujourd'hui.
Des choses complètement surréalistes, c'est-à-dire le Premier ministre turc était venu défiler avec François Hollande le 11 janvier, et le même gouvernement a attaqué ensuite les journaux qui republiaient les dessins en Turquie. Bon voilà, ça m'intéressait de mettre en scène cette chose-là. Après moi, effectivement, j'ai eu une conversation comme ça avec un dessinateur sur l'idée de faire une BD. On l'a jamais fait.
En tout cas, vous soulignez l'hypocrisie de l'Europe. C'est très juste ce que vous racontez dans le livre avec le procès d'Asli Erdogan qui a lieu. On la croise. C'est l'écrivaine qui a été emprisonnée, qui est attaquée, même accusée de soutenir la minorité kurde dans un journal d'opposition et accusée donc, ça va très vite en Turquie, d'appartenir à une organisation terroriste. Elle est libre aujourd'hui, mais à l'époque, elle était en plein procès. Et vous regrettez d'ailleurs l'absence de Charlie Hebdo à ce procès, l'absence globale des journalistes occidentaux.
Je le dis un petit peu, je suis pas là pour donner des leçons à Charlie ni à personne sur qui aurait dû être là. Absolument pas. Après, c'est vrai que moi, j'ai eu l'impression que le procès d'Asle était l'occasion, et pas seulement d'Asle, puisqu'elle a été attaquée en même temps que toute sa rédaction. Mais c'est vrai que sa notoriété à l'étranger aurait été l'occasion d'attirer les projecteurs ce qui se passait en Turquie. Je crois que c'est un cas extrêmement symptomatique et très intéressant parce qu'il n'est pas très complexe, le cas d'Aslı. Il n'y a rien contre elle. Il n'y a absolument rien. Et elle est, comme vous dites, accusée de faire partie d'une organisation terroriste, alors que tous ses écrits et tout ce qu'elle a fait de sa vie démentent complètement, évidemment, ce qu'on lui reproche. Donc j'aurais bien aimé que les journalistes internationaux, et notamment français, et notamment Charlie, parce qu'elle les a soutenus, soient présents.
Mathias Hénard, vous connaissez bien la Turquie, vous connaissez bien Istanbul.
Je suis allé à Istanbul, oui, ça m'est même arrivé d'écrire sur Istanbul. Oui. Ce qui est frappant, c'est effectivement le changement. Alors on le note dans la ville elle-même, dans la rue, effectivement, Istiklal qui est plus du tout la même, les populations qui se déplacent, une ville qui devient chaque fois plus gigantesque, et on a l'impression que la ville a été multipliée par deux, par trois, par quatre. C'est devenu une des plus grosses villes à la fois d'Europe et d'Asie, et cette transformation est absolument incroyable.
Et avec deux rives, hein, c'est ça la particularité qui est unique au monde. Hein. C'est la seule ville du monde, Istanbul, qui est située sur le continent européen et sur le continent asiatique, reliée par un pont avec le Bosphore au milieu. Est-ce que c'est ça finalement qui complique la politique turque au profit d'un semblant de démocratie ?
Oui, la situation d'Istanbul incarne la position politique de la Turquie, qui ne sait pas très bien si elle doit se tourner vers l'Europe ou vers le Proche-Orient. Là, clairement, il y a eu un volte-face qui a été fait ces 10 dernières années.
Bon, il y a un petit reportage qu'on a réalisé sur la tour de Galata. Vous êtes allé sur la tour de Galata où on voit les deux rives, la rive asiatique, la rive européenne. On vous mettra ça sur le site internet. C'est 3 minutes de découverte d'Istanbul comme ça à distance. Ce sera notre bonus web. Merci beaucoup Valérie Manteau.
Merci à vous.
Merci. Le Sillon est paru aux éditions de Le Tripode et c'est le seul livre de la maison d'édition. Vous êtes fiers de ça, j'espère.
Oui, bien sûr, et très reconnaissante au Tripode.
Merci Valérie. Vous restez bien sûr avec nous. À suivre, Marie Desplechin pour notre séquence jeunesse avec aujourd'hui un livre génial et un reportage sur la rentrée littéraire avec deux grands auteurs surprises. Et voici le Suisse Stéphane Escher et son tout nouveau titre. Merci d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Ce peu d'amour que tu me donnes, ce peu d'égard que je reçois, sent-il de trop pour un seul homme, sent-il de trop venant de toi? Prends garde que je ne me lasse, que ton jeu ne m'amuse plus, que celui qui prendre ma place pourrait bien te tanner le cul. Je pense, malgré le bien que je te veux, je sens bientôt venir ta chance. Tu as besoin d'ouvrir les yeux.
Stéphane Escher avec la fanfare Tract Orchestar. Un peu d'amour dans la librairie francophone, c'est le titre. Sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Vous découvrez un nouvel habillage, j'espère que vous avez remarqué depuis le générique, on a amélioré un petit peu les sons, le générique et les petits jingles comme on dit. La semaine dernière, nous étions en Suisse en public à Morges pour la première émission de l'année. Nous y avons croisé plein d'auteurs qui vous ont réservé quelques surprises. Première partie de ce reportage plein d'imprévus avec Pierre Assouline et un certain Dany Laferrière. Pierre Assouline qui est en train de lire... Bonjour Pierre Assouline.
Bonjour. Bonjour, bonjour.
Comment ça va Pierre ?
Oh ben ici c'est bien. Hein. C'est bien, c'est très agréable. On est toujours bien reçus, c'est très chaleureux.
Comment vous la vivez cette rentrée littéraire depuis la Suisse ? Parce que c'est le premier festival d'ailleurs de l'année hein, qui se déroule chaque année à tout début septembre. Et c'est une rentrée littéraire toujours agitée d'ailleurs.
Par principe, puisque il y a tellement de livres, tellement d'éditeurs en jeu, d'intérêts économiques et autres, et puis tellement d'auteurs que forcément il y a une pression. Mais cette année, je trouve que, évidemment, c'est une bonne rentrée, mais une rentrée très originale, très intéressante, parce que il y a beaucoup de primo-romanciers et primo-romancières, donc des auteurs de premiers romans, qui ont écrit des très bonnes choses.
Vous avez lu beaucoup de choses cet été, vous, forcément.
J'ai lu beaucoup de choses pour le Goncourt, bien sûr, et de tout, hein, bien sûr. En tout cas, cette année, j'ai eu une curiosité encore plus excité par cette production, ce cru plutôt, que j'ai trouvé très bon et très prometteur.
Vous avez déjà des favoris pour le Goncourt, vous ?
J'ai les miens, mais je ne peux pas en parler.
Ah ben non.
Et ceux de mes camarades, je ne peux pas en parler non plus.
Mais il y en a déjà.
Oui, des favoris.
Il y a des choses qui se dégagent déjà.
Il y a des tendances, des favoris, des noms qui se dégagent, bien sûr. Il y aura ceux qui sont sur la liste, c'est-à-dire 15 écrivains qui vont nous faire des grands sourires pendant le salon, et 380 qui nous font la gueule.
Vous êtes fait des ennemis parfois, ça arrive ça ?
Écoutez, les pires ennemis ne sont pas ce qu'on croit. Bon, que deux auteurs vous en veuillent, ben, c'est comme ça. Hein. Mais les pires ennemis, c'est certains critiques littéraires qui, non seulement vous en veulent de ne pas avoir mis leur favori sur la liste, mais parfois vous insultent, ce qui nous est arrivé.
Ah oui.
Ah oui, en disant, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est une faute professionnelle, vous êtes en dessous de tout, vous n'avez pas mis celui-là ni celui-là.
De quoi je me mêle, quoi, non ?
Ah oui, oui. C'est honteux. Oui. Non, mais les éditeurs ne se permettraient pas d'être aussi négatifs.
Non.
Et puis les auteurs, en principe, non plus. Ils peuvent bouder, faire la gueule. Mais là, il y a des critiques qui, franchement, nous engueulent. Mais ça me fait rire, moi.
Merci, Pierre.
Merci, à bientôt.
Bonne rentrée à vous, à bientôt. Il y a notre chroniqueur de la librairie francophone, Dany Laferrière.
Ah mais on est tout à fait heureux dans cette foule.
Ça va Dany ?
Oui, ça va bien. Oui, très bien.
Petite séquence rentrée littéraire, comment vous la vivez cette rentrée, vous ? Les rentrées littéraires en général ?
Ah ben c'est la fête, c'est la rentrée des classes quand on était bon élève.
Vous êtes un bon élève.
Eh mais merci. Ah non, mais j'aime bien retrouver les camarades et au fil du temps, on en voit qui se sont perdus et qui reviennent après un moment de silence et qu'on les accueille avec joie et d'autres qui sont là tout le temps et d'autres qui arrivent, qui sont tout à fait nouveaux. Cette rentrée littéraire a quelque chose d'extrêmement humain, c'est-à-dire c'est le train de la vie.
Bon, vous allez nous accompagner cette saison encore ?
Ah mais je vais... Quelqu'un m'a dit l'autre jour qu'il a entendu l'émission La Librairie Francophone. Il dit, mais c'était pas toi qui animais. Il y avait un autre qui était très très vivant et très excité et très compétent. C'est qui ça ? J'ai dit, mais c'est le type qui fait l'été. Il s'appelle Emmanuel Kérad.
C'est pas possible, hein, Dany. Il m'a piqué ma place, à force.
Et avec joie.
Bon, on va préparer une surprise aux auditeurs. On va animer une émission ensemble en train de voir quand. On verra. Hein ?
Eh bien, on verra. On verra. Et bien, ce sera une surprise et en même temps, une nature. C'est-à-dire le vieux goût qu'on a ensemble de travailler. C'est ça, de rire ensemble. Et ça ne changera pas. Et la surprise, ce sera le contenu.
Merci Dany Laferrière.
Avec grand plaisir. Bonne rentrée à tout le monde.
Merci à vous. Dany Laferrière. Et Pierre Assouline, membre de l'Académie Goncourt, vous l'avez compris, on vient d'apprendre d'ailleurs, puisqu'on parle de prix littéraire, que Valérie Manteau, vous êtes sélectionnée pour le prix Renaudot sur la première liste du Renaudot.
Ouais.
Félicitations.
Merci beaucoup. Bon,
j'espère que ça va durer et qu'on vous portera chance.
Merci.
Seconde partie de ce reportage en Suisse la semaine prochaine avec une rencontre inédite entre le réalisateur Patrice Lecomte et l'écrivain à succès Romain Puertolas, accompagné de son fakir. Et là, vous le verrez aussi, ce sera assez drôle.
La librairie francophone.
Raconte-moi une histoire, mon petit papa.
Il était une fois.
Je vous le disais la semaine dernière, nous parlerons de la jeunesse chaque semaine, tout au long de cette saison, avec des chroniques de libraires, des auteurs ou même des jeunes à ce micro pour un coup de cœur littéraire. Marie Desplechin est donc dans cette émission aujourd'hui pour son livre « Enfance » paru à l'École des loisirs. On va rester en Suisse, Marie, avec le fils de Guillaume Tell, dont vous racontez une petite histoire. Vous vous souvenez ?
Oui, je me souviens bien, mais celle-là c'est Claude qui l'a racontée.
Ah,
et j'ai essayé de la documenter un peu plus qu'elle ne l'était dans sa version, et il n'en a pas été question une seconde, parce que Claude est un auteur illustrateur.
Oui,
dans le livre, il y a quelques textes qui sont écrits par Claude.
Par Claude Ponty,
et
ouais.
Je suis responsable d'un dessin, parce qu'il n'y avait pas de raison que je ne me mette pas non plus à l'illustration.
Bon, alors, le fils de Guillaume Tell, donc, bah, voilà,
Claude
s'est
interrogé sur la question, parce qu'on parle toujours de Guillaume Tell, mais en fait, que pense cette petite personne qui est en face de lui et qui doit se tenir droit, ne pas trembler, alors qu'il risque d'y passer. Donc, si c'est terrible pour le père, c'est insupportable pour l'enfant. Donc ça ressemble tout à fait à Claude, ouais. En fait, de voilà.
Mais parce
de
que Guillaume Tell, n'a pas salué le drapeau.
Voilà.
Et donc, il a été puni, et sa punition, c'était de tirer sur son fils, quasiment, puisqu'on avait mis une pomme sur la tête du fiston, et il fallait toucher la pomme, de préférence, sauf que personne n'y croyait.
Il n'a pas tué son fils, c'est énorme. Hein. Et c'est un c'est des horrible. Héros de l'histoire de la Suisse,
oui,
et
oui,
voilà.
Oui. Bon, vous avez cherché des enfants comme ça, qui ont marqué l'histoire, les légendes, ou même vos propres souvenirs. On y croise des enfants qui deviendront célèbres, ou des enfants que l'on n'a jamais connus, et qui ont pourtant joué un rôle important pour le monde. Joseph Meister a 9 ans lorsqu'il se fait mordre par un chien enragé.
Et il aurait dû en mourir, hein, puisqu'à l'époque, on en mourait quasiment toujours. Le médecin, quand on l'emmène voir, il habite dans l'est de la France, oui. Dit « mais il y a un savant qui travaille, il y a peut-être... Voilà. » Et la mère prend son petit garçon par la main, fonce à Paris, elle y est le lendemain, cherche Pasteur à travers tout Paris, personne ne veut lui donner son adresse parce que les médecins le prennent pour un charlatan, finit par le trouver. Et Pasteur, qui a administré son vaccin à un certain nombre de chiens, hésite à le faire à un enfant qui risque de mourir, parce que ça, et en fait il est avec deux autres médecins, ils font l'inoculation, et là voilà, et ce petit garçon survit et vit et sera un jour le gardien de l'Institut Pasteur,
c'est ça,
bien
ouais.
Après, et
c'est une belle histoire, hein, vraiment.
Oui, mais il y a beaucoup de très belles histoires, et ce qui est amusant dans le choix de ces histoires, c'est que certaines correspondent à Claude et d'autres à moi, en fait. C'est un ensemble, si vous regardez bien, c'est très très bien fabriqué, mais elle était assez foutraque dans le choix de...
Mais ça se voit pas, Marie. Restons comme ça.
Vous êtes vraiment simple, vous êtes vraiment gentil même.
Mais juste
et Joseph Meister, c'est très lié à Claude, qui est originaire de Lorraine.
Oui.
Et donc, comme Saint-Nicolas, par exemple, ou même Guillaume Tell, alors oui. Là, vous pouvez, quand on connaît bien les gens, on peut savoir qui a
oui,
été
c'est ça.
À l'origine.
On
n'a
pas besoin,
histoire.
Parce qu'on sait se porter vraiment par ces histoires, c'est magnifique. Effectivement, ce petit garçon va recevoir 13 piqûres, il sera guéri en 10 jours, et jusqu'à sa mort, Louis Pasteur va écrire à Joseph. Il y a un autre enfant qui a sauvé une partie de l'humanité. C'est Claudette Cowin, ou je sais pas comment on prononce, mais en tout cas c'est une Américaine aux États-Unis, en Alabama. Le 2 mars 1955, Claudette a 15 ans et elle refuse de céder sa place à une blanche dans le bus.
Alors ça, c'est une histoire que je voulais raconter et qui a fait l'objet d'un très beau livre de Tania de Montaigne qui s'appelle « Noir ». Et Claudette, elle arrive avant Rosa Parks. Et c'est une gamine de 15 ans et elle fait ce qu'on fait d'autres adolescents, refuser de se lever, donc être traînée par la police, en justice. Mais elle n'a pas la respectabilité de Rosa Parks. Et en fait, elle va être abandonnée par le mouvement, on va pas se servir de son histoire. Et la suite de l'histoire est tragique parce qu'elle est condamnée, elle voulait être avocate, elle le sera pas. Enfin bon, c'est vraiment une vie super dure. Et juste après, Rosa Parks qui présente toutes les garanties, mère de famille, travailleuse, le bon âge, et en fait choisie pour être l'héroïne du mouvement des droits civiques qui va commencer. C'est une histoire qui est intéressante aussi parce qu'elle parle de l'injustice en fait. C'est-à-dire vous pouvez être le héros, mais voilà, ben voilà, c'est comme ça. L'histoire, c'est comme ça. Le héros n'est pas forcément.
Il y avait plein de petits héros avant Rosa
Parks
qui ont fait la même chose.
Voilà. Ouais. Et c'est une histoire qui m'avait énormément touchée.
Il y a un moins important encore que pour les Réunionnais, ça a changé la vie à l'époque. C'est l'histoire du jeune esclave Edmond à la Réunion.
C'est pas moins important.
Non.
C'est énorme.
Oui, enfin, c'est pas le même registre, on va dire, qui à la Réunion est intrigué par la vanille.
C'est-à-dire qu'à l'époque, dans ces îles, il y a la vanille, il y a pas l'insecte qui permet la fécondation.
Il y a pas les
donc
abeilles.
En fait, vous n'avez pas la gousse qui va faire la fortune. Et ce petit garçon, c'est un esclave qui a été donné à un monsieur, voilà, comme c'est à l'époque, comme vous donneriez un chien, en fait. Et c'est un petit garçon très curieux, voilà. Et son maître, puisqu'il s'agit d'un maître, hein, l'emmène avec lui, lui montre l'horticulture, et c'est lui qui a l'idée de féconder la vanille à la main. Et donc, il va faire la fortune de la Réunion, c'est-à-dire déclencher.
Ouais, ouais.
Et lui, il n'en touchera pas un sou. Il va mourir dans la misère absolue. Et ironie de l'histoire, il s'appelle Edmond, et les esclaves n'ont pas de nom. Et quand on décidera de donner un nom aux esclaves, on l'appellera Albus, blanc, qui sera lié à la, voilà, à ce qui aura fait non pas sa misère, parce que sa misère, elle était là, mais la fortune de ces îles
avec
et
la
des
vanille,
propriétaires d'esclaves.
Vanille Bourbon, voilà, qui voilà. Fera évidemment la réputation.
Et il a 12 ans,
Edmond, quand
il fait ça.
Il y a deux libraires qui ont lu ce livre, Marie Desplechin, la France ou la Belgique, je vois. Vous préférez qui?
La Belgique.
Vous préférez la Belgique? Très bien, ça sera noté. Thomas, préparez-vous. Tenez bras d'emblon pour la Belgique, allez-y.
Ben, je ne sais pas si vous avez raison de me préférer, mais moi, j'ai absolument tout aimé dans votre livre. Il est incroyable, j'ai tout aimé, vraiment. Le contenu, l'apparence, et puis aussi le fait que Claude Ponty et vous soyez sortis un peu de votre travail habituel, et puis que vous êtes en même temps restés tellement, tellement vous-même comme on vous aime. Alors, j'ai juste envie de vous dire merci. Merci d'avoir fait ça, merci d'avoir cassé les codes, merci d'avoir fait exploser les cases et merci d'être aussi délicieusement fantasque, créatif et littéraire.
Thomas Auxerre pour la France, êtes-vous d'accord?
Oui, je suis d'accord. Moi, c'est une belle curiosité vraiment qui m'a été mise entre les mains. Je connaissais et conseillais déjà depuis des années hein, le travail de Marie et de Claude Ponty à la librairie. Et là, ils ont quand même réussi à me surprendre hein, avec des textes alors qui sont illustrés. C'est très drôle, c'est poétique, c'est malicieux. En plus de ça, c'est très joli. Ça invite à rêver aussi. Nous, à la librairie, on va le conseiller, et puis autant aux enfants qu'aux adultes.
Bon, voilà, tout va bien, Marie?
Ah oui, je suis très contente, très touchée. Merci.
On voit dans ce livre, Marie Desplechin, que l'on devient celui que l'on est en puisant dans les chocs de notre enfance. Il y a l'exemple de l'athlète Tommy Smith aux États-Unis, victime de racisme toute son enfance, qui va remporter cette fameuse médaille d'or aux Jeux Olympiques de Mexico en 68, qui va lever le poing, etc. Et puis la comtesse de Ségur aussi, Sophie Rostopchine, qui lors d'une balade en forêt sera punie par sa mère, une mère terriblement sévère, et les malheurs de Sophie eh bien, viendront de l'inspiration de sa propre vie. Et puis Honoré de Balzac aussi, rejeté lui aussi par la famille richissime, et qui va se retrouver seul toute son enfance, c'est terrible son histoire.
C'est-à-dire que vous aurez remarqué que dans ses enfances, il y a peu de familles aimantes. Parce que d'abord, dans l'histoire, il n'est pas forcément acquis qu'on aime ses enfants. C'est une idée assez récente de les aimer, encore les aimer, admettons, mais les éduquer pas forcément. Si vous regardez l'histoire de Sophie Germain ou d'un tas d'autres gens, les enfants sont séparés de leurs parents, ils sont pas censés grandir avec eux. Et alors ça veut pas dire que personne n'est aimé, hein. Il y a des gens qui sont très aimés, Ada Lovelace est très aimée, mais quand même la majorité d'entre eux, les enfants, elles sont très très rudes, et ça nous apprend beaucoup de choses, hein. D'abord que c'est pas le bonheur qui forge les gens, et qu'on peut faire beaucoup de choses des épreuves de l'enfance.
Ouais, c'est ça. Citons Einstein aussi, Marie, qui rêve de géométrie à l'âge de 12 ans. Pour l'amuser, son oncle lui propose des problèmes de maths. C'est assez simple de devenir un génie, finalement.
Je pense qu'on n'a pas le choix. Et je ne sais pas si c'est un cadeau.
Bon, vous affichez aussi votre côté laïque avec Adam et Ève, que alors, vous décrivez comme étant des adultes qui ne sont jamais devenus enfants, et vous expliquez dans un texte, comme ça, très tranquillement, arrêtez de lever le doigt, je termine, vous allez dire que c'est Claude Ponty qui l'a fait, je vous sens venir, que ce n'est pas normal, parce que Adam et Ève ne peuvent pas donc être de bons adultes, en substance, hein, je transforme un peu mais pas trop, s'ils n'ont jamais été enfants. C'est un blasphème, Marie Desplechin.
Oui, ah, ça c'est l'idée de Claude. Je ne sais pas si je suis tout à fait... Il a un côté très très radical là-dessus.
Ah oui.
Et je suis plus prête à tempérer que lui. Mais il n'est pas du tout laïque ce livre, au contraire. Je ne sais pas, ça m'étonne qu'on ne l'ait pas souligné. C'est bourré de religieux.
Oui, mais bon,
alors sur un ton peut-être un peu drôlatique...
Oui, mais vous équilibrez, donc ça devient laïque. Il y a Moïse, même... effectivement, il y a Bouddha, il y a le Dalai Lama.
Il y a Ganesh, mais il y a, ouais. Il y a Bernadette Soubirous.
Oui.
Il y a Hildegard de Bingen, Nicolas Ardampon qui a inventé la poire. Mmh. Non, c'est bourré d'église.
C'est bourré d'église.
Bourré d'église et équivalent. Il y a Abdelkader.
Oui. Et puis alors, on va terminer avec une petite curiosité. Vous racontez l'histoire de la fille de l'homme invisible.
Alors ça c'est pareil, c'est Claude, et ouais, j'ai essayé sûr. De remettre de la documentation. Bah oui, parce que, en fait, dès
on va l'appeler, appelez-moi Claude Ponty tout de suite.
Oui, oui. Bah oui. Non, c'est parce que les choses les plus fantaisistes sont Claude, et mon naturel me pousse à mettre de la documentation. Donc sur la fille de l'homme invisible, j'en ai cherché de la documentation, et c'est pareil, Claude m'a dit. Et en fait, ça fait partie aussi de à mon avis, du charme du livre, c'est cette distorsion. Et la fille de l'homme invisible est effectivement peut-être le meilleur moment du livre.
Bon, merci beaucoup Marie Desplechin. Vous avez beaucoup fait rire Mathias Sénard et Zaina Abirachet qui arrivent dans un instant. Ce livre, donc Enfance, avec les dessins magnifiques de Claude Ponty, vraiment c'est sublime, est paru à l'École des loisirs. Merci Marie.
Merci.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires revient cette saison, bien sûr, avec les coups de cœur et les coups de gueule. Un coup de cœur dans le rayon poésie au Canada avec Josiane Letourneau.
Avec Joséphine Bacon. En fait, hier, j'ai ouvert une boîte à la librairie, elle était là. Je ne peux pas résister. Alors, Ouyèche, j'espère, mon inou n'est pas très au point. Alors, Ouyèche, quelque part, chez Mémoire d'en crier, un merveilleux recueil bilingue. J'aime beaucoup le fait qu'ils mettent le texte inou des poèmes. On a cette femme âgée qui est dans le constat et la contemplation. Au cœur de la ville, elle réussit à nous ouvrir un pan de nature et d'âme. C'est une poésie qui est très posée, très simple, mais extrêmement belle. Je suis fan. De Joséphine Bacon, elle est magnifique, alors je vous le conseille.
On est fan également de Joséphine Bacon, on avait réalisé un reportage d'ailleurs à Montréal, que vous pourrez retrouver sur internet, où on parlait de sa poésie, et c'était à l'Oratoire Saint-Joseph, si mes souvenirs sont bons. Ouyèche, c'est le dernier recueil donc, de Joséphine Bacon, aux éditions Mémoire d'Encrier, magnifique maison d'édition. Merci beaucoup Josiane. Dominique Bressoux, un coup de gueule?
Oui, un coup de gueule sur l'Italie, c'est toujours bien, de Corinne de Sarzan. En fait, quand je comprends pas un traître mot à un livre, je vais voir ce qu'en dit un peu son éditeur. Et pour ce livre, j'ai cédé à ce travers, après que le livre me soit tombé des mains, vers le milieu à peu près, et j'ai appris que c'était un roman hybride, certes, débridé, voire échevelé, presque roman initiatique. Bref, en fait, moi j'ai trouvé que Corinne de Sarzan écrit magnifiquement bien.
Bah oui, carrément.
Vraiment bien.
Mais elle est géniale.
Elle donne
en
vraiment
plus.
Envie de la suivre sur ses chemins erratiques. Mais moi, j'ai abandonné parce que, je comprenais rien.
Elle est pétillante, elle est incroyable, Corinne de Sarzan.
Bah oui, je sais. Ouais. Mais on l'a vu dans cette émission. Je vais encore avoir l'air hargneuse, moi.
Bah écoutez, on peut pas aimer tous les livres de tous les auteurs.
Ouais. Eh ben voilà.
Il y a bien un livre de Mathias Sénard que vous n'aimez pas, par exemple.
Sûrement.
Ouais. Mathias, dis rien.
Ça m'étonnerait, alors là. Absolument impossible.
Impossible. Donc, le livre de Corinne de Sarzan, on y revient, c'est L'Italie, c'est toujours bien, aux éditions La Baconnière. Merci, Dominique. À suivre, donc, la BD de la rentrée avec Mathias Sénard et Zaina Abirached. Avant cela, un son africain revisité par Mara Villas de Mali et la complicité de Mori Kanté dans la librairie francophone.
Nous allons danser jusqu'à l'eau, mon ami. Rendez-vous ce soir, c'est parti matin. Nous allons danser jusqu'à l'eau, mon ami.
Rendez-vous ce soir, c'est parti matin. Rendez-vous ce soir, c'est parti matin. Rendez-vous ce soir, c'est parti matin. Rendez-vous ce soir, c'est parti matin.
Maravillas de Mali qui revisite Mori Kanté et ce titre emblématique de l'artiste Rendez-vous chez Fatimata.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Mathias Sénard, prix Goncourt 2015 pour Boussole et Zeina Abirached, auteur du piano oriental, sont dans la librairie francophone cette semaine pour la bande dessinée Prendre Refuge. C'est une grosse bande dessinée avec deux histoires parallèles. L'une en Afghanistan au moment de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale. L'autre à Berlin, aujourd'hui, entre un jeune Allemand, Karsten, qui apprend la langue à une jeune Syrienne, Neila. Quel est le rapport entre les deux? Pourquoi cet opposé-là? Quelle est votre démonstration, Mathias Sénard, Zeina?
Non, on voulait raconter ces deux histoires, justement les juxtaposer pour qu'elles communiquent et qu'elles fabriquent une troisième dimension, un autre récit qui est un peu dans le non-dit, mais aussi des correspondances peut-être plus profondes et plus tristes aussi, qui sont ce moment extrêmement douloureux que vit aujourd'hui la Syrie et les réfugiés qui se trouvent en Allemagne. Et une histoire de l'Europe vue de très loin, depuis l'Afghanistan, et le prélude à la destruction que constitue le début de la Seconde Guerre mondiale.
Karsten va lire un livre qu'une amie lui prête. Ce livre s'appelle « Prendre refuge ». Qu'est-ce que c'est « Prendre refuge », Zeina Abirached? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Eh ben, d'abord, c'est une des premières phrases du livre, puisque le livre commence sur un ciel étoilé et une pleine lune qu'on va voir tout le long de l'album, qui va ponctuer un peu toutes les pages, toutes les 330 pages de l'album. Et cette première phrase dit « On ne se convertit pas au bouddhisme, on y prend refuge ». Alors évidemment, c'est un des enseignements du bouddhisme que j'ignorais avant de travailler sur ce texte avec Mathias. Et ce qu'on a essayé de faire dans le livre, c'est aussi d'explorer cette notion de refuge, de prendre refuge, parce qu'en français, en général, on dit trouver refuge, ouais, ou chercher refuge. Et là, c'était important pour nous de garder la notion d'action, de prendre refuge.
On prend refuge en l'autre aussi. Alors, c'est cela, prendre refuge, se réconforter grâce à l'autre, par amitié ou par amour.
Exactement. On prend refuge dans une langue, dans un pays, et dans parfois dans une personne, dans l'amitié ou l'amour, en effet.
Et puis parfois, c'est impossible.
Alors, on va peut-être pas tout raconter.
Non, mais d'une façon générale.
Oui, disons que le chemin
parfois,
peut être tortueux.
Oui, c'est impossible d'aimer en raison du lieu ou de la culture trop différente. Enfin, il y a des raisons qui font qu'à un moment, même si on trouve refuge en l'autre, eh ben, c'est difficile de rester dans ce refuge-là. Pour des raisons annexes, périmétriques.
Voilà.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Vous avez dit périmétrique.
Oui, c'est pas un mot français.
C'est un mot qu'on n'entend pas souvent. Je ne sais pas s'il peut effectivement s'adapter à notre ouvrage, mais c'est on n'a pas l'impression d'avoir écrit quelque chose de périmétrique.
C'est mathématique. C'est mon côté Einstein, vous voyez. Voilà. Pour revenir à l'histoire avec Marie Desplechin. Bon, je ne sais plus quoi dire.
Peut-être dans l'idée du refuge, il y a aussi l'idée du moment. On ne reste pas dans un refuge éternellement. C'est un passage dans un cheminement qui peut... Ouais.
C'est confortable de rester dans le refuge.
Oui, mais est-ce qu'il est bon de rester confortable tout le temps? Je ne sais pas.
Vous avez quitté tous vos refuges, vous, Zeina? Toujours?
Pas tous à la fois.
Un après l'autre.
Peut-être.
Bon, il y a plein de métaphores, c'est vrai. Alors ça, c'est la spécialité, je dirais, de Mathias Sénard, parce que les symboles, les métaphores, il sait les utiliser avec beaucoup de tact, d'ailleurs, et beaucoup d'intelligence. C'est parfois plus complexe que ça en a l'air. Il y a plusieurs lectures dans ce livre, Mathias Sénard.
Ben déjà, le fait que ces deux histoires soient juxtaposées, qu'il y ait un livre dans un livre, et qu'elles communiquent, que ce soit le lecteur lui-même qui les fasse communiquer, qui voit ce que l'une peut éclairer ou nous apprendre de l'autre, fabrique une espèce de pluralité de lecture, ouais. Une espèce de ciel, justement, une constellation.
Oui, tout le temps, ouais, la constellation.
Et qui est un des éléments graphiques qui réunit ces deux histoires.
On va écouter les libraires qui ont lu ce livre. Vous êtes d'accord, Zaina? Ne faites pas cette tête-là, tout va bien se passer.
Écoutons.
Écoutons avec le Canada, la Suisse et la Belgique. Et on commence par le Canada, Josiane Letourneau.
Vous commencez toujours par moi.
Ben là, c'était, je sais pas, j'avais prévu ça. Maintenant, vous voulez qu'on change?
Non, Damblon en Belgique. C'est parfait. On change rien. Je vous en prie.
Allez-y.
Non, parce que c'est toujours un plaisir et un bonheur de lire une œuvre de Zaina Abirachet. Je suis une fan finie. Je suis pas sûre d'être complètement objective tellement que j'aime.
Très bien.
Ce que
vous merci alors.
C'est une belle surprise aussi de découvrir ce tandem avec Mathias Sénard. Visuellement, c'est toujours un ravissement. Il y a toujours cette humanité et cet humour qui pétille malgré la tristesse qui surgit inévitablement. C'est ça. Merci encore.
Déborah, pour la Belgique, êtes-vous d'accord?
Oui, moi, j'ai plongé dans votre livre et j'ai vraiment eu l'impression d'entrer dans un, pour dire un vilain mot aussi, un slow book, je puis dire, pardon, pour l'anglais. Un livre à contre-courant, un livre à contre-courant de notre monde fou et galopant. Et puis, on était obligé, du coup, de prendre le temps à chaque page, le temps de s'imprégner de la puissance ou alors de la douceur des illustrations, de l'endroit où on se trouve, des émotions des personnages. Bref, c'est un roman graphique à mériter, je trouve, et puis à déguster très lentement, et puis qui résonne longtemps dans la mémoire, et ça fait vraiment du bien.
Dominique Bressot, pour la Suisse, validez-vous les commentaires de vos collègues?
Totalement. Moi, j'avais adoré Piano Oriental, et ce nouvel album m'a tout autant plu, déjà parce que moi, j'aime qu'on me raconte des histoires, et particulièrement des histoires d'amour. Et le graphisme noir et blanc, même c'est très tranché, il donne un rythme étonnamment fluide à la lecture, et les dialogues s'empilent juste comme il faut, ni trop, ni trop peu. Et puis les petits bruits, presque à chaque page, genre scritch, scritch, toc, toc, moi j'adore.
Ils se serrent la main les deux, là, je rêve. Ils se congratulent, ils sont dans le bonheur absolu. C'est la rentrée 2018 pour Mathias Sénard et Zaina Abirachet. Ça va, ça se passe bien?
Oui, ça va.
Jusqu'ici, ça
merci,
va, oui.
Hein. Merci beaucoup.
Bon, je vais vous poser une petite question, Zaina. Je vais vous poser la question en regardant ce livre.
Oui.
Votre dessin est très géométrique.
J'ai peur, là.
Très géométrique, tout en noir et blanc, très précis. On a l'impression qu'il est réalisé à l'ordinateur.
Il est? Absolument.
Alors, est-ce que ça gâche pas un peu tout, ça?
Ah ben non, pourquoi?
Bah,
c'est une question que vous me posez ou c'est une assertion?
C'est entre les deux.
Non, pas du tout. À l'ordinateur, pourquoi pas? À la tablette, hein, c'est quand même
Ça se voit.
C'est un crayon,
parfois.
C'est pas non plus une.
Moi, j'ai vu des petites imperfections parfois
c'est
sur certains traits.
C'est bien. Je suis contente. Vous avez bien regardé.
Oui, vraiment bien.
C'est fait exprès.
Et vous avez toujours dessiné avec l'outil informatique?
Non, j'ai commencé en fait avec le piano oriental au moment où j'ai commencé à manipuler les motifs.
Ouais.
Et tous les jeux de répétition, au moment où j'ai vraiment commencé à concevoir les livres sur la double page. Et donc à ce moment-là, j'ai commencé à scanner mes dessins, à les retravailler à la tablette graphique et à essayer de tout faire bouger sur mon écran. Et puis très vite, c'est devenu une façon de travailler passionnante. Surtout quand on travaille en noir et blanc, c'est vrai que c'est chaque composition est un peu comme un jeu de construction. Ouais. Dès qu'on bouge un blanc, il faut le rééquilibrer. Ouais. Enfin, c'est
il y a un rendu vraiment incroyable en tout cas. C'est vrai. C'est assez réussi.
Merci, c'est gentil. Par contre, je suis assez. Enfin, c'est important parce que ce que j'essaie de faire, en effet, c'est géométrique. On me le dit souvent. Mais j'essaye toujours d'apporter de la mélodie aussi dans les formes et dans le mouvement des pages. Le rythme, on a parlé d'onomatopée tout à l'heure. Le rythme, c'est quelque chose de très important.
On va écouter la BO du livre. On vous a demandé quelle musique illustrerait le mieux cet ouvrage. Et vous avez choisi Abdel Ali Mahfez. C'est un poème chanté. On écoute un extrait, vous nous expliquez juste après. جراحك في صدري وأخذت الصبر إن كنت L'artiste Abdel Ali Mahfez. Pourquoi cet artiste d'origine égyptienne, je crois, Mathias Sénard?
Oui, et il chante un poème, là, ce qu'on vient d'entendre. C'est un poème qui s'appelle « Lettre depuis sous l'eau », Risalat Tahtma, qui est un poème d'un poète syrien qui apparaît dans le livre, qui s'appelle Nizar Al-Qabbani.
Ouais.
Et quand Neila, donc la réfugiée syrienne à Berlin, cherche à expliquer à Karsten, l'allemand, ce qu'est la poésie arabe, elle utilise les poèmes de ce poète syrien.
D'accord.
Pour essayer de lui faire comprendre ce que c'est que la réalité de la poésie arabe, la poésie lyrique, la poésie amoureuse arabe. Et donc voilà pourquoi c'est un peu la BO de l'album, comme vous l'avez dit.
Et on va terminer avec cette musique-là. Merci beaucoup, Mathias Sénard. Merci Zaina Birached.
Merci.
Bonne chance pour ce livre, pour cette rentrée littéraire. Prendre refuge est paru aux éditions Casterman. Il est très bien édité. Il faut souligner la qualité de l'édition et de l'éditeur Casterman qui a fait un magnifique travail. Merci à vous.
Merci
beaucoup.
Merci.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Le mot de la fin, c'est pour nos libraires. On reste dans la bande dessinée avec un coup de cœur en France, Thomas Auxerre.
Alors, une super bande dessinée parue dans la semaine, Poulane Devi, Reine des Bandits. C'est de Claire Fauvel, c'est chez Casterman. Ça raconte la vie de cette femme indienne qui est issue d'une caste inférieure, alors qui va subir des épreuves, une enfance violente, mais qui, à l'adolescence, va se transformer en une sorte de Robin des Bois au féminin. Alors, détrousser les riches pour donner aux pauvres, sauver les femmes.
Normal.
C'est sa vie, c'est une vraie vie. Ensuite, elle est devenue députée, une vie incroyable. C'est beau, c'est très bien découpé, c'est très dynamique. Et vraiment, l'ensemble est à tomber, c'est génial.
Claire Fauvel, Poulane Devi, c'est ça?
Poulane Devi, oui.
Poulane Devi, aux éditions. Encore Casterman, dis donc.
Bah oui, je n'ai pas fait exprès. Ouais.
Grosse bande dessinée, ça a l'air sublime, les dessins sont magnifiques. Merci beaucoup Thomas. On part en Belgique avec un coup de gueule, Déborah Damblon, paraît-il.
Exactement. Ben si, ça m'arrive des fois, Emmanuel.
Ben oui, je sais.
Mais je copie, parce que vous vous souvenez du coup de gueule de Jérémy la semaine passée?
Oui.
Les livres, les politiciens québécois qui ne publiaient pas de livres.
Oui.
Eh bien, chez nous, en Belgique, c'est pareil. Pas de débat d'idées non plus. Et donc, on n'en discute pas assez. Alors, moi, vous savez, j'ai le coup de gueule productif, donc je veux faire des propositions. Je voudrais demander à nos élus, à défaut de publier des livres, est-ce qu'ils pourraient pas nous en conseiller pour qu'on connaisse un peu mieux leurs idées?
Ah, c'est pas idiot, ça.
Parce que les livres, c'est bien pour mener le débat, non?
C'est pas mal. On s'adresse à tous les hommes politiques, français, suisses, belges et québécois. Conseillez-nous des livres. Comme ça, on verra un petit peu ce que vous avez dans la tête. Merci beaucoup. Merci, Déborah Damblon. Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le tout jeune groupe français Les Francs-Bourgeois et un extrait de Saint-Tropez. Bourgeois avec Saint-Tropez, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. À la réalisation, Hélène Bizio avec Élise Christophe. Merci Mathias Sénard, Zéina Birached, Marie Desplechin, Valérie Manteau. À bientôt. Au revoir.
Merci.
À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, l'écrivain algérien Boualem Sansal, la jeune auteure belge Adeline Dieudonné pour son premier roman et le chanteur Bernard Lavillier pour un livre inattendu sur la poésie. Passez un bon week-end, une belle semaine. À bientôt, salut.